بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه الليلة هي ليلة 29 من شهر جماد الأولى عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس الرابع في قراءة رسالة ستة مواضع من السيرة. Nous sommes le 29 mars 2014 et ceci est le quatrième cours dans la lecture et l'étude de l'épître ou de l'écrit six événements de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière, nous avons vu deux de ces six événements qui sont le deuxième et le quatrième. Concernant l'histoire de la prosternation des associateurs avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous avez vu que Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah, a précisé que les savants du hadith ont divergé quant à l'authenticité de cette histoire. Et il s'avère que l'imam al-Albani, rahimahullah, a un écrit qu'il a consacré pour cette histoire, dans lequel il a vérifier toutes les chaînes de transmission par lesquelles ce hadith a été rapporté pour en conclure que l'histoire n'est pas fondée réellement. Elle n'est pas fondée réellement. Wallahu a'lam. Également, la semaine dernière, j'ai dit que Abu Jahl était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le frère de son père. Et c'était une erreur de ma part, celui que je voulais viser, c'était Abu Lahab. C'est-à-dire que quand je disais Abu Jahl, dans ma tête, je parlais de Abu Lahab. Donc, gardez ça à l'esprit. Alaykoum salam. L'auteur a dit, Al-Mawdi'u al-Khamis, Qissatu al-Hijra. Wa fiha min al-Fawa'idi wal-Ibar, ma la ya'rifuhu aktharu man qara'aha. Walakinna muradana al-an, mas'alatun min masailiha. وهي أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين ولكن محبة للأهل والمال والوطن فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه. Le cinquième événement, c'est l'histoire de la hijra. L'émigration. Donc ici nous parlons de l'émigration lorsque les musulmans ont quitté la Mecque pour se rendre à Médine. L'auteur dit, il y a dans celle-ci des leçons qui ne sont pas perçues par la plupart de ceux qui lisent cette histoire. Il y a des leçons qui ne sont pas perçues par la plupart de ceux qui lisent cette histoire. Et il dit, mais ce que nous voulons ici, c'est une question bien précise parmi les questions de l'égir, de l'immigration. C'est que, alaykoum salam, il y avait parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certains qui n'ont pas émigré. Ils n'ont pas quitté la Mecque pour se rendre à Médine. Non pas par doute quant à la religion d'Allah, ou bien par amour envers la religion des associateurs, mais plutôt à cause de l'amour, de l'argent, de la famille et de l'endroit d'où ils sont nés. Quand ces mêmes personnes sont sorties dans la bataille de Badr en compagnie des associateurs alors qu'ils étaient contraints, certains d'entre eux ont été tués. Ils ont été tués par les lances et les lanceurs ignoraient que leurs victimes étaient des musulmans. Premièrement, le mot hijra dans la langue arabe vient de la base al-hajr. Al-hajr dans la langue arabe signifie le délaissement, le fait de délaisser une chose. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Muddathir, l'enveloppé, le verset 5, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. Et les idoles, délaisse-les, en employant justement ce terme, وَهْجُرْ. D'où le mot hijra. Donc le mot hijra à la base, c'est le délaissement, l'abandon. أي اتركه فالهجر هو الترك ومنه هجر أهل المعاصي fait partie ou entre dans ce terme le fait de se mettre à l'écart des gens qui commettent des péchés. Également, هجر المشركين se mettre à l'écart ou bien boycotter ou couper les liens avec les polythéistes. C'est-à-dire le fait de s'écarter d'eux et de ne pas les aimer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud et d'autres, Al-muhajiru man hajara ma naha Allahu an. Celui qui émigre est celui qui a délaissé ce qu'Allah a interdit. Ici, ce qui est voulu par le terme hajara, ou bien l'émigration, c'est son sens linguistique, c'est-à-dire le délaissement. Et nous allons voir que ce qui est voulu par l'auteur, c'est le sens religieux, qui est ce que nous allons voir, inshallah ta'ala. Le cheikh a dit, wa amma al-hijratu fi shar'a, quant à l'émigration, ou bien la hijra, dans le sens religieux, فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لأجل الدين. Il consiste à se déplacer d'un endroit de polythéisme ou d'association pour rejoindre un pays d'islam. Tout ceci dans le but de préserver sa religion. هذه هي الهجرة الشرعية. Cette émigration est celle qui est légiférée. والهجرة فيها فضل عظيم. وهي عديلة الإيمان والجهاد في سبيل الله قال الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فهذا مما يدل على عظم الهجرة. L'émigration a de nombreux mérites. D'ailleurs, elle a été citée dans le Coran accompagnée de la foi, également de la lutte dans le sentier d'Allah. Dans le verset, Allah Azza wa Jal dit ce qui veut dire: ceux qui ont cru émigrer et lutter pour Allah Azza wa Jal. Et cette immigration dont nous parlons, qui consiste à quitter le pays de Kufr ou de Shirk pour rejoindre le pays d'Islam, est effective, cela jusqu'à ce que l'heure arrive. À partir du moment où le musulman est dans l'incapacité de montrer les emblèmes de sa religion et de les mettre en pratique, alors qu'il est dans un pays qui à la base est un pays d'associateurs, de polythéistes et autres, il lui sera obligatoire de quitter ce pays pour rejoindre le pays où il lui sera possible de montrer les emblèmes de la religion, de mettre en pratique sa religion comme il se doit. فَإِنْ لَمْ يُهَاجِرْ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْهِجْرَةِ. Et s'il n'émigre pas alors qu'il en est capable, Allah Azza wa Jal a dit au sujet de ces gens-là, dans sourate An-Nisa, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit ce qui veut dire: ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant: où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc nous allons voir l'histoire de la révélation de ce verset. C'est donc une menace forte qui est dirigé à la base à des gens qui sont musulmans, comme nous allons voir dans l'histoire de la révélation de ce verset, qui sont des compagnons. Mais quand ils n'ont pas émigré, parce qu'ils étaient accrochés à ce qu'il y avait à la Mecque comme bien, comme enfants, et qu'ils aimaient tout simplement leur pays ou leur région d'où ils sont nés, ils ont fait passer l'amour de toutes ces choses devant l'émigration et l'ordre d'Allah Azza wa Jal, ils se sont exposés à la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. La cause de la révélation de ce verset est citée par les exégètes, parmi eux Ibn Kathir et d'autres. Ils disent que ce verset à la base a été révélé concernant des musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'ont pas émigré. Les compagnons, eux, ont quitté la Mecque et rejoint Médine. Et les autres n'ont pas émigré. Pourquoi ? Car ils ne voulaient pas perdre les biens qu'ils avaient à la Mecque. Ils avaient du commerce, de l'argent. Ils étaient implantés dans cet endroit. Ils ne voulaient pas quitter cet endroit. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait face aux associateurs le jour de la bataille de Badr. Et dans cette bataille, les polythéistes de la Mecque, les kuffars de Quraysh, étaient accompagnés de ces musulmans qui n'avaient pas émigré. Et ces musulmans étaient dans la contrainte de sortir avec eux. Ils sont donc sortis avec eux. Et l'histoire de la bataille de Badr, à la base, c'était un imprévu. Il n'y avait pas une bataille qui était planifiée. Seulement les habitants de Quraysh, les kuffars de Quraysh, étaient avec un convoi dans le but de commercer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris qu'ils étaient en route. Il a décidé de les attaquer. Et à ce moment-là, avec eux, il y avait des musulmans qui n'avaient pas émigré. Et donc, ils sont restés avec les polythéistes. Puis quand les musulmans ont fait face aux associateurs, ils les ont combattus. Et suite à cette bataille, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont tué des personnes qu'ils pensaient être des associateurs, puisque ces dernières étaient avec les polythéistes de Mecca. Et après avoir appris que ces gens-là n'étaient pas associateurs, mais qu'ils étaient musulmans, ils ont dit « Qatalna ikhwanana », c'est-à-dire « Nous avons tué nos frères ». Nous avons tué nos frères. Ce qui les a poussés à s'attrister. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset que nous venons de lire, le verset 97 de Surat An-Nisa, pour expliquer que ces gens-là qui n'ont pas émigré se sont fait du tort à eux-mêmes et donc ont été injustes. Allah Azza wa Jalla a dit « Innal ladhina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusahum » Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Comment est-ce qu'ils ont fait du tort à eux-mêmes? En désobéissant à Allah Azza wa Jalla quand ils ont préféré rester avec les biens qu'ils avaient, leur commerce, leur famille, leur village natal, au lieu d'émigrer. Ils se sont fait du tort à eux-mêmes parce que celui qui commet un péché se fait du tort à lui-même. Et ici, Allah Azza wa Jal parle du moment de l'agonie, au moment où les gens meurent. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous ? » Ils enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous ? » Le Cheikh Al-Fawzan a dit « Ya'ni mal watan alladhi antum fi ayy watan » C'est-à-dire « Quel est le pays où vous étiez ? » Quel est le pays, quel est l'endroit où vous étiez ? Ma qalu kayfa halukum fil iman. Ces anges ne disent pas à ces gens où en êtes-vous avec la foi. Aw ma yaqinukum, ou bien où en êtes-vous avec la certitude. Ma sa'aluhum an hadha wa inna ma sa'aluhum an il makan fi ma kuntum. Ils ne les ont pas interrogés sur toutes ces choses, mais ils les ont interrogés sur un endroit. Où étiez-vous? Ces gens ont dit قالوا كنا مستضعفين في الأرض. Ils dirent, nous étions impuissants sur terre. Nous étions impuissants sur terre. C'est-à-dire, ici, ceux qui sont visés sont, en premier lieu, ces compagnons qui n'ont pas émigré, pour les raisons que l'on a déjà citées. Nous étions impuissants sur terre, c'est-à-dire, ils nous ont forcés à sortir avec eux à cause de notre faiblesse. À cause de notre faiblesse. Ces anges leur disent قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste que pour vous permettre d'émigrer? كان لكم مندوحة عن هذا. لو هاجرتم مثل ما هاجر إخوانكم لسلمتم من هذه الواقعة. Cheikh Al-Fawzan a dit, c'est-à-dire, si vous aviez émigré comme l'ont fait les premiers qui ont émigré, vous seriez préservés de ce mal. Quel est le mal? Ils ont été tués. Ils ont été tués. Ulaika ma'wahum jahannam. Puis Allah Azza wa Jal dit: voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Bien sûr, à l'exception de ceux, comme on va voir dans la suite du verset, qui sont faibles, qui sont dans la capacité, et ceux qui se repentent et qui demandent à Allah tabaraka wa ta'ala le pardon. Alladhina la yaqdiruna 'ala al-hijra wa baqu fi bilad ash-shirk li'annahum ma yaqdiruna 'ala al-hijra. Quant à ceux qui n'ont pas émigré à cause de l'incapacité de le faire, Allah Azza wa Jalla a dit à leur sujet: illa al-mustad'afin min ar-rijali wal-wildan wa afwan min ar-rijali wal-nisa wal-wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika 'asa Allahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Allah Azza wa Jalla dit donc: à l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, à ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Allah Azza wa Jal continue dans les mêmes versets et dit: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Ce qui veut dire: et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance. C'est-à-dire que celui qui fait cette énorme adoration qui est l'émigration, de sortir des pays de kuffar pour aller vivre chez les frères dans la foi, les pays de musulmans, celui-là trouvera refuge. C'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il trouvera également abondance. Allah lui accordera des dons sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Celui qui quitte les pays de kuffar pour aller vivre dans les pays où les habitants sont des musulmans, puis qui en route décède, leur récompense incombe à Allah tabaraka wa ta'ala et Allah se chargera de les rétribuer pleinement. هذا في شأن هؤلاء وهذه قصة عجيبة عظيمة. C'est une histoire qui est étonnante et qui est très grande. أن هؤلاء مع إسلامهم وصدقهم في الإسلام لما تركوا الهجرة من غير عذر حصل عليهم هذا الوعيد وهذا التوبيخ من الملائكة لما جاءت تقبض أرواحهم. Cette histoire, elle est étonnante. Car ici, nous parlons de gens qui sont musulmans et qui sont véridiques dans leur islam et dans leur foi. Mais quand ils ont délaissé cette adoration qui est l'émigration sans excuse valable, ils ont reçu cette menace des anges qui sont venus reprendre leurs âmes. فدل على أنه لا يجوز للموحد المسلم أن يتساهل بهذا الأمر وأن يكون مع المشركين ولو من غير محبة لهم. Cela montre qu'il n'est pas permis aux monothéistes musulmans d'être laxistes dans ce domaine. D'être laxistes dans ce domaine, c'est-à-dire l'émigration. Et de rester avec les associataires même s'ils ne les aiment pas. لكن محبة لكن محبة لماله أو ولده أو بيته. Même s'il ne les aime pas, il le reste parce qu'il aime l'argent qu'il y a dans le pays où il vit. Il aime les siens, il aime sa maison, il aime toutes ces choses-là qui le poussent à rester. Allah Azza wa Jalla a dit: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset s'adresse à ceux qui préfèrent leurs biens et qui préfèrent ce bas monde au fait d'émigrer. Il s'adresse à eux, tabaraka wa ta'ala, en disant, « Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, c'est-à-dire la peur que vous avez de perdre votre commerce, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chères qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. » Attendez, c'est-à-dire attendez la menace qui s'adresse à vous. Et puis Allah Azzawajal nous montre que ces mêmes personnes ont été qualifiées par Allah lui-même, tabaraka wa ta'ala, comme étant pervers. Et parmi beaucoup de gens qui lisent l'histoire de l'émigration, ils ne comprennent pas le sens de cette histoire. L'auteur a dit: فَلَمَّا سَمِعَ الصَّحَابَةُ أَنَّ مِنَ الْقَتْلَ فُلَانًا وَفُلَانًا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا فأنزل الله تعالى هذه الآية. Lorsque les compagnons ont entendu qu'ils ont tué des gens qui en vérité sont leurs frères, pris par la tristesse, ils ont dit: nous avons tué nos frères. Et Allah a révélé ces versets que nous venons de lire. L'auteur dit: فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا. Celui qui médite cette histoire et médite la parole des compagnons qui ont dit: nous avons tué nos frères, alima annahu law balaghahum anhum kalamun fi ad-din aw kalamun fi tazyin din al-mushrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Celui qui a médité ce que l'on vient de dire va savoir que si les compagnons qui ont été attristés avaient entendu que les autres qu'ils ont tués se serait moqué de la religion, ou bien aurait vanté la religion des associateurs, ils n'auraient pas dit: nous avons tué nos frères. Donc quand ils ont dit: nous avons tué nos frères, c'est parce que ces gens-là dont ils ont parlé ne se sont pas moqués de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Fawzan dit: فَصَحَابَةُ مَا قَالُوا إِخْوَانُنَا illa li annahum mustaqimun ala ad-din. Les compagnons n'ont dit de ces gens-là qu'ils sont leurs frères que parce qu'ils sont droits dans la religion. Ma dhukira anhum annahum malu ma'a al-mushrikin aw muwahhidu aw madahu al-mushrikin. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas cité de ces gens-là qu'ils ont vanté les associateurs ou bien qu'ils ont penché vers eux. Bal yubghiduna din al-mushrikin wa kanu ala at-tawhid. Bien au contraire, ils détestaient la religion des polythéistes et étaient sur le monothéisme. وَكَانُوا مُخْلِصِينَ لِلَّهِ وَلَيْسَ فِيهِمْ نِفَاقٌ. Ils étaient sincères envers Allah, ils n'étaient pas hypocrites. لَكِنْ تَرَكُوا شَيْئًا وَاحِدًا وَهُوَ الْهِجْرَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَامَهُمُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ. Mais ils n'ont laissé qu'une seule chose, c'est l'émigration. Allah Azza wa Jal les a blâmés suite à ça. L'auteur a dit: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ بَيَّنَ لَهُمْ وَهُمْ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ أَنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَأَبْلَغُ مِنْ هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمْ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ فِيمَا كُنْتُمْ وَلَمْ يَقُولُوا كَيْفَ تَصْدِيقُكُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. Donc l'auteur dit: Allah tabaraka wa ta'ala a clairement montré, pendant que ces gens-là étaient à la Mecque, avant même qu'ils n'émigrent, que de se moquer de la religion d'Allah ou de prononcer la parole de mécréance est un acte qui fait sortir de l'islam. Dans le verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit ce qui veut dire: celui qui mécroit en Allah après avoir eu la foi, à l'exception de celui qui a été contraint et qui a un cœur apaisé par la foi. Plus encore, le fait que ces anges se sont adressés à ces personnes qui n'ont pas émigré au moment de l'agonie pour leur dire: où étiez-vous? Où en étiez-vous? Où étiez-vous? Ils n'ont pas dit: comment est-ce que vous étiez par rapport à la foi? Est-ce que vous croyez Est-ce que vous avez cru? Car ils savent que ces gens-là ont cru. Quel est leur péché? Le fait qu'ils n'ont pas émigré avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَالْمَلَائِكَةُ مَا سَأَلُوهُمْ عَنْ إِيمَانِهِمْ وَعَقِيدَتِهِمْ لِأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ أَنَّهُمْ عَلَى عَقِيدَةٍ صَحِيحَةٍ وَعَلَى إِيمَانٍ صَادِقٍ لَكِنْ سَأَلُوهُمْ عَنِ الْمَكَانِ الَّذِي هُمْ فِيهِ حيث لا يجوز لهم أن يبقوا فيه وهم يقدرون على الهجرة منه. Les anges n'ont pas interrogé ces gens sur leur foi, sur leur dogme, car ils savent que ces gens-là ont une croyance correcte et ont une foi véridique, mais ils les ont interrogés sur un endroit où ils étaient et qu'ils ont refusé de quitter, car il n'est pas permis à ces gens-là de rester dans ce même endroit à l'heure qu'ils sont dans la capacité de sortir de celui-ci. L'auteur a dit: وَلَمْ يَقُولُوا كَذَبْتُمْ مِثْلَ مَا يَقُولُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ لِلْمُجَاهِدِ الَّذِي يَقُولُ جَاهَدْتُ فِي سَبِيلِكَ حَتَّى قُتِلْتَ فَيَقُولُ اللَّهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ بَلْ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ جَرِيءٌ وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ لِلْعَالِمِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَذَبْتَ بَلْ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَتَصَدَّقْتَ لِيُقَالَ جَوَادٌ. Ils n'ont pas dit, les anges n'ont pas dit à ces gens-là, vous avez menti. Ils n'ont pas dit, vous avez menti. Comme ils l'ont dit à ces trois personnes qui sont citées dans le hadith, qui seront les premières personnes sur lesquelles va être attisé le feu de l'enfer. Le premier, c'est le combattant, qui en apparence est mort dans la lutte pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui en fait recherchait le regard des autres. Le deuxième, c'est le savant, celui qui avait étudié et qui viendra le jour du jugement dernier avec les hasanats comme des montagnes. Allah lui privera de ses hasanats et lui dira: tu mens, tu es un menteur, tu as fait cela pour qu'on dise de toi que tu es un savant, que tu as la science. Et le troisième, c'est celui qui donne des aumônes. Les anges n'ont donc pas dit, les anges qui ont repris les âmes de ceux qui n'ont pas émigré, n'ont pas dit à ces gens-là: vous mentez, vous n'étiez pas musulmans, vous n'étiez pas croyants. Mais ils ont plutôt dit à ces gens-là: où étiez-vous? Ils les ont interrogés sur l'endroit dans lequel ils étaient présents quand ils sont sortis avec les associateurs, même s'ils sont sortis par la contrainte. Car لأنهم السبب في تسلط الكفار عليهم. Ils sont la cause de l'attaque des kuffars contre eux. ولا يجوز مرافقتهم والخروج معهم حبا للمال وللأهل ومداراة لكي يبقوا على أموالهم. Il n'est pas permis de sortir avec eux comme eux l'ont fait, de sortir avec les kuffars de Quraysh, parce que ou par amour pour l'argent, de peur de perdre ton argent, de peur de perdre ta famille, et par sympathie à l'égard de l'autre ou par complaisance. L'auteur a dit: وَأَمَّا هَؤُلَاء فَلَمْ يُكَذِّبُوهُمْ بَلْ أَجَابُوهُمْ بِقَوْلِهِمْ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا وَيَزِيدُ ذَلِكَ إِيضَاحًا لِلْعَارِفِ وَالْجَاهِلِ الَّتِي بَعْدَهَا وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Ce qui veut dire, donc les anges ne leur ont pas dit vous mentez. Quand ils leur ont dit où en étiez-vous, ils ont dit nous étions affaiblis sur terre, nous étions oppressés, nous étions affaiblis, comme ça là. Ils n'ont pas dit vous mentez, vous n'êtes pas des croyants en vérité, mais ils ont plutôt dit: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour pouvoir émigrer? Ils savent que ce sont des croyants, donc ils n'ont pas besoin de remettre en cause leur foi. Par contre, ils citent le péché qu'ils ont commis, le fait de délaisser l'émigration. Et rajoute de l'éclaircissement à ça le verset suivant où Allah Azza wa Jal dit: à l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes, les enfants qui ne trouvent pas de chemin, c'est-à-dire qui ne trouvent pas de quoi émigrer. L'auteur a dit, donc ici on parle des gens qui sont excusés, des gens qui n'émigrent pas et qui sont excusés religieusement. فَهَذَا أَوْضَحُ جِدًّا أَنَّ هَؤُلَاء خَرَجُوا مِنَ الْوَعِيدِ فَلَمْ يَبْقَ شُبْهَةٌ لَكِنْ لِمَنْ طَلَبَ الْعِلْمِ بخلاف من لم يطلبه بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. L'auteur a dit, et ceci est encore plus clair. Ceci est encore plus clair que ces gens-là, les gens qui étaient faibles et qui n'ont pas la capacité, sont excusés et sortent de la menace. Il n'y a donc plus d'ambiguïté. Mais pour celui qui recherche la connaissance, quant à celui qui ne recherche pas la connaissance, il est à l'image de ceux au sujet desquels Allah Azza wa Jal a dit, sourds, muets, aveugles, ils ne reviendront pas. Le Cheikh a dit, Na'am, ikhtilatu al-muslimin ma'a al-kuffar min ghayri 'udhr amrun la yajuz. Il dit, et certes, le fait que les musulmans restent avec les kuffars sans raison religieuse est une chose interdite. بل لابد أن تتميز بلاد المسلمين من بلاد الكفار. Il est impératif que les pays musulmans se différencient et distinguent des pays de kuffar. ولا يخالط المسلم المشرك. Et que le musulman ne se mélange pas aux associateurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens du hadith, المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما. C'est-à-dire, le musulman et l'associateur, leurs feux ne se font pas face. De quoi est-ce qu'on parle ici? Les gens de l'époque, quand ils voulaient manger, ils cuisinaient. De sorte à ce que le voisin voit le feu de l'autre et sache qu'il est en train de cuisiner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est rapporté par Abu Dawud et Tirmidhi, a dit, le feu du mushrik et celui du mu'min, du croyant, ne doivent pas se croiser. C'est-à-dire que l'un doit être loin de l'autre. Ensuite, l'auteur a dit, وَمَنْ فَاهِمَ هَذَا الْمَوْضِعِ وَالَّذِي قَبْلَهُ فَاهِمَ كَلَامَ الْحَسَنِ الْبَصْرِي قَالَ لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّحَلِّي وَلَا بِالتَّمَنِّي وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ وَصَدَّقَتْهُ الْأَعْمَالِ. Celui qui comprend cet événement dont nous parlons, qui est l'émigration des compagnons de la Mecque vers Médine, ainsi que celui qui l'a précédé. Quel est l'événement qui a précédé celui-ci? Hein? C'est l'histoire de la mort de Abu Talib. Comprendra la parole de Hassan al-Basri qui a dit, la foi ne consiste pas à une parure ou un décor, mais c'est plutôt quelque chose qui habite le cœur et qui est traduit par les actes. Quelque chose qui habite le cœur et qui est traduit par les actes. Abu Talib a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a soutenu. Et pourtant, où est-ce qu'il est? On sait tous qu'il est en enfer. Ici, ses compagnons sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont refusé d'émigrer. Et vous avez entendu le verset où Allah parle d'eux et de ce qu'il leur est arrivé et comment les anges se sont adressés à eux. On comprend donc que l'islam, ce n'est pas une parure, ce n'est pas une parole. L'islam, c'est une pratique. Ça doit être une véritable pratique. Quand nous disons la sunna, nous devons la pratiquer sous toutes ses formes et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et on ne doit pas dire, nous sommes excusés, ce n'est pas pareil parce que. Si on n'est pas véritablement excusé religieusement parlant, comme beaucoup de gens le font au jour d'aujourd'hui. وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Allah Azza, donc d'abord, le Cheikh a dit, la foi consiste en des actes, consiste à œuvrer et à faire des actes. Et parmi les meilleurs de ces actes, la hijra, l'émigration. Le fait de sortir des pays des koufars, des associateurs, pour rejoindre le pays des musulmans. Cet acte qui est la hijra fait donc partie des bonnes actions. Les annaha min al-a'mal, elle fait partie des actes. Wa hadha fihi raddun 'ala al-murji'a alladhina yaquluna innahu yakfi al-iman bil-qalb aw bil-qalbi wal-lisan. Et à travers cela, il y a une réfutation pour les partisans, ce qu'on appelle al-murji'a en arabe, qui sont ceux qui ont une erreur énorme dans la croyance, puisqu'ils disent il suffit pour avoir la foi d'avoir la conviction du cœur. Ou bien, il suffit d'avoir la conviction du cœur et prononcer des paroles. Ces gens-là disent que le pervers parmi le commun des musulmans a la même foi que l'ange Jibril, alayhi salam. Ils disent aussi que la foi ne monte pas ni ne baisse, puisqu'il a, quoi qu'il fasse, tous les croyants ont tous la même foi. Pourquoi ? Parce que eux, ils définissent la foi comme étant croire dans le cœur. Voilà, ya'adhu billah. Donc, la parole d'Allah Azza wa Jal, citée ici ensuite par l'auteur, Allah Azza wa Jal dit, vers lui remonte la bonne parole, et il fait élever vers lui la bonne action. Vers lui, c'est-à-dire vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette bonne parole peut être les formules que l'on répète, le dhikr, ou bien la lecture du Qur'an, le tasbih, le tahlil, et toute bonne parole qui remonte vers Allah. Le fait d'ordonner un bien, d'interdire un mal, d'enseigner une science utile, tout cela fait partie des bonnes paroles. Les bonnes paroles avec les proches, comme Allah Azza wa Jalla a dit, est prononcé avec les gens de bonnes paroles. Également, Allah Azza wa Jalla dit, « وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا » quand il s'adresse aux musulmans qui doivent parler à ses parents, « dis-leur de bonnes paroles ». Tout cela fait partie des bonnes paroles. Donc, le résumé de cet événement, c'est l'histoire de l'immigration des compagnons et du prophète, alayhi salatu wassalam, de la Mecque vers Médine. Ensuite, on a vu le devenir des gens qui n'ont pas d'excuses religieuses et qui n'ont pas immigré. Comment les anges se sont adressés à eux. Avec cette histoire-là, et la précédente qui est celle d'Abu Talib, on voit que l'islam ce n'est pas qu'une parole ou une prétention. On voit que l'islam ce n'est pas qu'une prétention et le fait de dire je suis musulman, j'ai prié et tu te suffis de ça. Derrière tout cela, il y a une croyance. Cette croyance te pousse et doit te pousser à te soumettre au Coran, à te soumettre à la sunna véritablement. Quand il y a un différent qui oppose, dans lequel tu es opposé avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu vas prendre comme juge? Est-ce que tu vas prendre le Coran et la Sunna, ou bien vas-tu suivre ce que ton âme et tes passions te dictent? C'est ça qui est voulu par cette histoire. Quand tu te retrouves devant un interdit d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est-ce que tu vas dire, comme la plupart des gens disent, Allah sait très bien ce que j'ai dans le cœur? Regardez ce qu'a répondu Al-Hassan al-Basri. La foi, ce n'est pas une parure. Ce n'est pas un embellissement ou une parure, mais la foi, c'est quelque chose qu'il y a dans le cœur et qui se traduit immédiatement par des actes. Et au jour d'aujourd'hui, nombreux sont les musulmans qui, quand ils entendent un conseil, ils sont dans une interdiction flagrante. On dit à ces mêmes personnes, crains Allah Azza wa Jal, crains Allah, tu commets un péché, crains Allah, tu commets une innovation. Ils disent, pour certains, j'ai trouvé mes parents, mes ancêtres. D'autres disent, j'ai l'habitude. D'autres disent, j'ai entendu un tel. D'autres disent, telle et telle chose. D'autres disent, je sais que c'est interdit, mais Allah sait très bien, il connaît mon intention. Il sait que pour moi, c'est différent. Je suis proche de lui. Quand je rentre chez moi, je l'invoque. Je lui demande le pardon. Toutes ces paroles sont caduques. Et elles sont d'aucune utilité à la personne qui la prononce. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a créés que pour la soumission. Est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a exempté son prophète sallallahu alayhi wa sallam de tout ça? Le prophète a rencontré toutes les épreuves. Il a enduré, alayhi salatu wa sallam. En aucun cas il n'a dit, Allah sait ce que j'ai dans le cœur. Il se levait la nuit et priait tellement que ses talons se fendillaient, alayhi salatu wa sallam. Quand il pleurait, on avait l'impression que c'était une marmite en ébullition. Il demandait pardon à Allah sans cesse. Dans une assise, on l'entendait plus de 70 fois demander le pardon d'Allah, Azza wa Jal. Il invoquait Allah tabaraka wa ta'ala sans cesse. Il était le plus prompt à obéir à Allah, Azza wa Jal. Les compagnons, c'est pareil pour eux. Ils ont donné leur vie, ils ont donné leur temps, ils ont donné leurs moyens physiques, financiers, moraux, scientifiques et tout dans le but de secourir la religion d'Allah, Azza wa Jal, pour qu'aujourd'hui, des musulmans disent « Allah sait ce que j'ai dans le cœur ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui veut dire « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps sera bon. S'il est mauvais, tout le corps sera mauvais. » Alaykoum salam. Et celui-ci est le cœur. Et quand le cœur est bon, les actes suivent. Aujourd'hui, tu trouves une personne qui ne prie pas et qui dit « Allah sait ce que j'ai dans le cœur ». Cette même personne a montré ce qu'elle a dans le cœur. Une personne qui a coupé le lien avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Une personne qui n'a aucun lien avec Allah. Pendant que toi, tu te lèves pour aller prier, cette même personne dort. Quand tu viens au dhuhr pour prier, cette même personne mange. Quand tu viens au asr, cette même personne est insouciante. Quand tu viens au maghrib et au isha, cette même personne est peut-être en train de désobéir à Allah. Pour après dire, Allah sait que j'ai un bon cœur. Ce cœur ne peut être que mauvais. Ce cœur ne peut être que mauvais. Il ne peut rien être, il ne peut pas être autre chose que ça. C'est impossible. Parce que quand tu oublies Allah, tabaraka wa ta'ala, ton cœur se purifie. Quand tu commets un péché, ton cœur est terni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand le fils d'Adam commet un péché, c'est un point noir qui vient marquer son cœur. S'il s'en repent, son cœur est purifié. S'il continue, c'est un deuxième qui vient, suivi d'un troisième et ainsi de suite, jusqu'à ce que son cœur soit recouvert de noir et il se trouve alors scellé. Et c'est à ce sujet qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun » Ce qui veut dire dans surat les fraudeurs, al-mutafifin, mais non, mais plutôt ce que leurs actes, ce qu'ils ont fait comme acte ou ce qu'ils ont acquis a scellé leur cœur. Et donc les musulmans qui disent ça sont des personnes qui en fait cherchent à trouver des raisons pour désobéir à Allah Azza wa Jal. Aucune excuse nous permet de désobéir à Allah Tabaraka wa Ta'ala, car nous sommes créés pour se soumettre à Allah Azza wa Jal. Toute personne qui commet un acte qui est interdit, que cet acte relève du shirk, de l'association, ou bien du kufr, de la mécréance, ou bien de la bid'a, de l'innovation, et combien est grand le nombre d'innovations au sein des musulmans, au sein des foyers musulmans. Toutes ces personnes-là n'ont aucune excuse à faire ces actes. Elles doivent comprendre que l'islam n'est pas un embellissement. L'islam n'est pas une parure. L'islam consiste à se soumettre au texte. Si toi, tu as eu l'habitude de faire une chose pendant longtemps, mais ensuite un texte te vient clair et t'enseigne que c'est interdit, à ce moment-là, nous allons voir si cette personne va appliquer ce vrai islam avec lequel elle s'embellit. Car l'islam n'est pas un embellissement, c'est une pratique. C'est une pratique. C'est ce qui a été voulu ici par l'auteur du livre. Et on s'arrête ici, inshallah ta'ala. Il nous restera le sixième et dernier événement qui va traiter de l'apostasie de certaines personnes après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa barakallahu fikum.